bonjour et merci de vous savoir très nombreux à l'écoute de Patara, le débat politique de Radio Ndekeluka. Nous parlons du bras de fer entre le gouvernement et les enseignants du Fondamental 1 et 2 de Centrafrique. Ce bras de fer fait suite à la grève de 21 jours lancée mardi dernier par les enseignants du primaire et du secondaire pour réclamer des autorités leurs primes de crêpes, primes de dépaysement, primes de risque. Bref, ils exigent des autorités l'amélioration de leurs conditions de travail, pas d'attente entre les deux parties. Conséquence, les cours sont suspendus dans presque tous les établissements publics du pays. Cette crise sociale est loin de trouver une solution, car le parquet de Bangui a interpellé les trois leaders syndicaux placés depuis jeudi en garde à vue à la section des recherches et d'investigation insérée pour enquête. Selon le gouvernement et le parquet de Bangui, ces leaders syndicaux sont à l'origine de troubles dans des écoles mardi dernier. Faux, rétorque les enseignants qui parlent d'un prétexte pour nuire ou pour faire perdre de vue l'essentiel de leurs revendications. Ces enseignants durcissent toujours leur position alors que les élèves, eux, attendent impatiemment la reprise des cours. Question, à l'allure où vont les choses, va-t-on vers une année blanche? Si le gouvernement reconnaît que les revendications des enseignants sont légitimes, pourquoi encore mettre en détention les trois leaders syndicaux alors qu'ils défendent de leurs intérêts moraux et sociaux? Le gouvernement Moulou est-il dépassé par le cours des événements? Voilà tant d'interrogations qui vont nous guider dans ce débat politique d'aujourd'hui. Et pour en parler, nous recevons M. Barnabé Ngomba. Bonjour, vous êtes professeur de français.
Bonjour Armando, bonjour à toutes les auditrices de la radio de Keluka ainsi qu'à tous les auditeurs.
Monsieur Christian Emendota, bonjour.
Bonjour Armando et je salue tous les auditeurs de Radio de Keluka.
Journaliste indépendant et observateur de la vie sociopolitique de la République africaine. Et enfin nous avons Monsieur Innocent Kéréguélé, coordinateur de la plateforme des organisations syndicales des enseignants du primaire et secondaire. Bonjour et merci de nous rejoindre directement au studio après votre libération ce matin. Même si vous avez été libéré, c'est aujourd'hui que vous êtes libre et que vous nous avez rejoint.
Merci Armando, je salue tous les auditeurs et je remercie beaucoup plus la plateforme Beaco par l'intermédiaire de Maître Akolosa. Je remercie aussi l'excellence ONESUI. Je remercie également la plateforme Isika et tous les camarades, je les salue.
Une fois de plus, bonjour à toutes et à tous. Le débat s'est après cette courte pause.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekeluka.
Nous avons invité le ministre de l'Éducation nationale qui ne s'est pas rendu disponible pour participer à ce débat, mais qui a désigné deux ou trois de ses collaborateurs. Malheureusement, aucun d'entre eux n'est aussi disponible pour participer à ce débat. Nous sommes vraiment désolés et nous allons continuer le débat et nous allons faire vivre à tous nos auditeurs qu'est-ce qui ne va pas, parce que les élèves, les parents d'élèves attendent ce débat pour en savoir plus. Revenons sur les temps forts de la première journée de votre interpellation, Monsieur Kéréguélé, avec notre reporter Bonaventure Ngomba Katikiro.
Convoqués d'abord au service de police judiciaire, ils sont auditionnés au commissariat de police administrative, puis par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bangui. Au tribunal de grande instance, les enseignants manifestent leur mécontentement et leur soutien à leur leader par des cris et des chants. En guise de déception, ils jettent des morceaux de craie devant les agents de police qui constituent un dispositif assez fort. Le procureur de la République, Benoît Narcisse Foupio, contacté, indique hors micro que ses leaders syndicaux sont auditionnés dans le cadre de la poursuite des enquêtes. Alors que ces leaders syndicaux devraient être reconduits au commissariat de police administrative, ils ont été transférés à la section de recherche et d'investigation. À la SRI, la police et la gendarmerie dispersent la foule des enseignants avant d'auditionner les trois responsables syndicaux et les maintenir en détention. Lucas Ndouba, un des syndicalistes, déplore cette action du gouvernement et exige la libération sans délai de ses leaders syndicaux.
La manière dont on a traité nos camarades leaders syndicaux dans les véhicules de la police, on les a traités comme des braqueurs. C'est lamentable. Le droit à l'éducation, mais regardez ce qu'on a fait aux anciens. On réclame nos droits. Au niveau du gouvernement, ils ont dit que notre revendication est légitime. Mais le ministre de la fonction, il dit qu'on a des faux diplômes. La réaction du ministre de l'éducation, il avait donné même instruction au chef d'établissement a trouvé des cahiers de présence. L'enseignant qui ne va pas aller au travail, on va sanctionner l'enseignant, couper son salaire. Est-ce qu'ils seront capables d'éradiquer tous les 9000 et quelques enseignants là, sur toute l'étendue du territoire? On prend l'opinion internationale en témoin, on prend aussi l'opinion nationale et le médiateur de la République en témoin. On ne peut pas gérer les syndicats avec la dictature, mais on ne peut pas baisser les bras. Je profite sur votre micro pour demander à tous les enseignants qui sont en province de ne pas faire le coup. Si les leaders syndicaux sont en prison, on préfère aller les suivre, aller en prison. Tous les collègues qui intervenaient dans les établissements privés, je leur demande de déposer humblement les craies et de garder leur silence chez eux. Une fois que nos trois leaders syndicaux seront libérés, on va reprendre la négociation et puis on va reprendre les activités.
Ces leaders syndicaux sont maintenus pour des motifs: troubles à l'ordre public, menaces verbales suivies de violences et incitation à la haine contre le gouvernement.
Merci beaucoup, Bonaventure Ngomba Katikoro. Monsieur Kerigele, vous avez écouté, c'est le premier jour de votre interpellation. Vous êtes là avec nous dans le studio, vous avez écouté, vous êtes déjà libre. Peut-on dire que cette affaire est déjà close?
C'était hier soir, à partir de 18h, que le procureur de la République est passé nous libérer. Et tellement qu'il fait nuit, et pour raison de sécurité, on avait refusé de quitter les locaux de la section de recherche et d'investigation. Nous avons dit on va rester, nous avons passé la nuit. Et c'était ce matin qu'on s'est rendu à la bourse d'arrêt pour remercier les collègues, les camarades pour leur mobilisation. Et je reviens encore de plus pour remercier tous ceux qui se sont mobilisés, qui nous ont écoutés, parce qu'ils savent que c'est un dossier vide, rempli de complots, et raison pour laquelle on a retrouvé cette liberté. Donc je réitère encore, nous remercions beaucoup plus l'excellence Ouenezu qui ne cesse de s'approcher de nous. Et nous remercions aussi le chef de l'État particulièrement pour sa décision, et ainsi que le maître Akolosa de la plateforme Béako, ainsi que nos camarades de la plateforme Issika qui ont témoigné leur solidarité syndicale envers nous en écrivant pour notre libération.
Oui, mais aujourd'hui, est-ce que cette affaire, la grève, vous maintenez votre grève toujours?
Mais je crois que c'est l'Assemblée générale qui avait décidé, donc c'est pas moi le coordonnateur qui a pris cette décision. Donc si c'est pour lever, il fallait une autre Assemblée générale pour prendre la décision.
Monsieur Barnabé Gomba, votre réaction à tout ce que vous venez d'écouter, d'abord avec le reportage, avec tout ce que vous êtes aussi enseignant, qu'en dites-vous?
Merci Armando. Je suis moi aussi enseignant, j'ai commencé ma carrière au fondamental 1, et maintenant, je suis au lycée comme professeur de français. Concernant cette revendication, je suis vraiment déçu du fait que j'ai appris que nos leaders ont été arrêtés au niveau de la SRI. Tout ce que nous traversons dans ce pays, toutes les difficultés que nous éprouvons, tout ce que nous, enseignants, nous percevons comme salaire, est-ce que si nous nous sommes mobilisés pour revendiquer nos droits, est-ce qu'on a besoin de jeter un de nous ou nos leaders en prison? Ça, c'est vraiment, c'est quand même trop, c'est quand même trop. Quelle autorité de ce pays-là ne sait pas que les enseignants sont en train de souffrir présentement, surtout ceux du fondamental 1 et 2. Les conditions dans lesquelles nous travaillons ne sont pas réunies. Si vous allez dans les salles de classe, il y a un effectif pléthorique. Moi, j'ai démarré ma carrière au fondamental 1. Quand j'étais encore à l'école Saint-François, j'avais 280 élèves. Et regardez, avec 280 élèves, est-ce que quand tu enseignes, tu auras le temps même de sillonner la rangée pour regarder comment les élèves travaillent? C'est impossible. Et avec ça, quand j'ai quitté le fondamental 1 pour aller au lycée, j'avais passé mon stage au lycée de Gobongo. Et au lycée de Gobongo, on m'avait donné la classe de seconde A4'3. Dans la salle de classe, j'avais 380 élèves. Imaginez-vous. Avec ça, c'est vraiment une condition dans laquelle on peut travailler pour transmettre des connaissances réellement aux enfants afin qu'ils puissent prétendre de nous remplacer demain. Si notre système éducatif a commencé à se dégrader, où étaient nos autorités là? Ils étaient là, non? Ils ont vu ça, non? Quand les choses ont commencé à aller de mal en pis, ils sont là, ils ont regardé et maintenant ils sont toujours prêts à nous condamner, Les conditions de notre travail ne sont pas réunies. Et si nous revendiquons ces conditions de travail, si nous revendiquons une hausse de salaire, qu'est-ce qu'il y a de mal ici pour arrêter nos leaders et aller les mettre en prison?
Selon les raisons, ce n'est pas à cause de vos revendications. Mais vos revendications, vous savez, mardi dernier, il y avait des causes dans les établissements publics, enfin privés. Les parents couraient de gauche à droite pour aller chercher leurs enfants. Et il y avait, selon les informations, quelques jets de pierre. C'est tout ça qui a provoqué l'arrestation de vos leaders.
Bon, tous les collègues qui se sont réunis, est-ce que c'est possible qu'ils se divisent en même temps pour être à la fois dans toutes les écoles privées pour aller lapider les gens? Ça, c'est des scénarios que moi, je ne considère pas.
Oui, M. Kirigile, rapidement, avant de donner la parole à M. Christian Mendouta.
Je crois que c'est ce point-là qui est aujourd'hui au centre de notre arrestation. J'avais dit déjà que c'est un véritable complot monté de toutes pièces par les gens bien identifiés. Or, aujourd'hui, si la bonne volonté du gouvernement, c'était de négocier, parce qu'ils savent et ils reconnaissent que nos revendications sont légales. Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsque les revendications sont légales? Autant mieux, un dialogue franc qui respecte la règle de l'art avec une très bonne méthodologie qui donnera satisfaction aux deux parties. Et cela sera sanctionné par la signature d'un protocole d'accord. Mais chose qui n'est pas faite jusqu'à aujourd'hui. L'histoire de jette de pierre dans les établissements privés, je l'ai dit, aucun enseignant n'a mis pied dans les établissements privés pour lapider. D'ailleurs, les enseignants, surtout ceux du Fondamental 2, ils ont des heures dans les établissements privés. Et c'est eux-mêmes qui détiennent l'administration au niveau du Fondamental 2 dans les établissements privés. Ils sont même des censeurs, des proviseurs. Il y en a même qui interviennent là-bas. À quelle heure ceux-là peuvent aller lapider? L'exemple est concret. Quand hier nous étions en détention, nos camarades sont mobilisés au niveau de la bourse travail pour rédiger un mémorandum à l'endroit du gouvernement, des autorités du pays. Mais il y a des jeunes recrutés qui se sont... Oui, par un compatriote, il a été même cité.
Non, nous, on ne sait pas, c'est pourquoi on vous demande si vous le savez, puisque nous avons suivi l'information comme vous.
Effectivement.
Que votre rassemblement a été perturbé par un groupe de jeunes.
Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Et ces jeunes qui venaient, ils étaient recrutés dans les deux bus et on les oriente maintenant vers la bourse de travail avec des pierres pour aller jeter sur les camarades qui étaient à l'intérieur de la bourse de travail. Heureusement, des camarades qui étaient dehors pour superviser les motos stationnées par les camarades qui étaient venus à la bourse de travail, ils ont fait de leur mieux pour mettre la main sur 6 personnes bien identifiées. Et ceux-ci ont reconnu qu'ils étaient envoyés par un compatriote, en l'occurrence de monsieur Didassin, qui les a envoyés en leur donnant 2000 francs chacun. Et ils étaient orientés au niveau du commissariat du CNES. Ce qu'on déplore, c'est quoi? Au niveau du commissariat, la presse était venue pour les interviewer. On a refusé. Nous avons saisi notre avocat. Mais aujourd'hui, ce matin même que je vous parle, lorsqu'on nous a libérés, d'abord même hier, on a remonté l'information au niveau de l'enquêteur. Celui qui nous a auditionnés, il a remonté l'information au niveau du parquet. Le parquet a dit qu'il n'est pas au courant. Et les enfants ont été libérés. Vous voyez, c'est cette manigance-là. Ils ont manipulé les gens et ceux-ci sont allés maintenant dans les établissements pour lapider les gens et on veut nous porter le chapeau.
On va écouter M. Christian Emendota sur tout ce qui se passe. Vous avez suivi, vous êtes observateur de la vie sociopolitique de la République africaine. Vous avez suivi de bout en bout ce qui se passe actuellement et surtout la grève des enseignants. Quelle est donc votre réaction, monsieur?
Merci Armando. Je voulais d'abord saluer la libération de M. Kéréguélé et la présence de Barnabé Gomba, qui est professeur de français. Merci. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis un enseignant également. J'ai enseigné au lycée Barthélémy Bouganda le français justement, mais c'était il y a très 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 longtemps, entre 1989 et 1991. Donc, ceci étant, effectivement, je suis l'actualité, comme tout ce qui se passe dans le pays. Je suis l'actualité et parfois je le relaye sur ma page Facebook, que ce soit Christian Dotao, Chris Kahn. Lorsque j'ai appris qu'il y avait cette grève des enseignants de 21 jours, la première réaction que j'ai eue, je me suis dit, j'espère que le gouvernement va rapidement réagir en invitant ces enseignants, parce que 21 jours, c'est pas 21 heures, c'est pas 21 minutes, c'est quand même pratiquement 3 semaines pour ne pas donner le savoir à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos petits-frères, à nos frères, nos sœurs. Ça devait être catastrophique. Je m'attendais donc à ce qu'il y ait une réaction du côté du gouvernement à travers le cadre de concertation pour qu'on puisse appeler les enseignants autour de la table des négociations. Malheureusement, ce qu'on a constaté, c'était plutôt une cabale. Moi, j'ai fait le tour de certains lycées, notamment au niveau de Saint-Charles. J'ai vu la panique qui s'en était suivie, des rumeurs comme quoi les enseignants étaient en train de faire le tour des établissements privés pour les lapider. Moi-même, j'ai fait le tour de ces établissements et on s'est rendu compte que c'était pas les enseignants, c'est des personnes extérieures qui lapidaient pour, en quelque sorte, comme l'a dit Monsieur Kéréguélé, essayer de décrédibiliser ce mouvement-là. Moi, je pense que en arrêtant les enseignants, c'est une grave erreur. Une grave erreur, la preuve, au niveau de l'opinion nationale, aussi bien au niveau politique. J'ai vu qu'on a cité des personnalités ici comme Maître Akolosa ou comme Wenezu qui sont à la présidence de la République pour l'un et un autre qui est dans un mouvement qui est proche du pouvoir. Donc, si ces personnalités ont soutenu quelque part ces enseignants en mettant de leur poids pour leur libération, ça veut dire que il y a une faute qui a été commise quelque part. Ce qui s'est passé ensuite à la bourse du travail, moi je le déplore. Je déplore le fait que dans ce pays, on puisse agiter l'épouvantail, j'allais dire, de la voyoucratie. Parce que c'est pas la première fois que ce genre de situation arrive. On a vu ce qui s'est passé devant la Cour constitutionnelle à une certaine époque. On a vu ce qui s'est passé au niveau du tribunal de grande instance lorsque le ministre Hassan Bouba avait été arrêté. On instrumentalise des jeunes pour essayer de contrecarrer, mais ça envenime la situation. Au lieu de régler la situation, ça ne fait que envenimer. Vous voyez, les enseignants qui sont à la Bourse du Travail, tranquillement en train de se réunir, et vous le savez, la question de franchise de la Bourse du Travail, même les forces de l'ordre n'ont pas le droit de s'y rendre, sauf s'il y a une réquisition spéciale du procureur. Mais dans le cas d'espèce, c'était des voyous qui ont été envoyés pour, j'allais dire, casser de l'enseignant. Et c'est pas une bonne pratique qui doit plutôt, à ce niveau, le gouvernement doit plutôt réagir de manière ferme contre ce genre de personnes. Parce qu'on est en train d'embrigader cette jeunesse à travers, on voit beaucoup de manifestations dans ce pays ces derniers temps. Mais ces manifestations sont vraiment contre-productives et ne vont pas dans le sens de l'apaisement ou bien du développement d'un pays. Et dans le cas concret de la grève des enseignants, la meilleure chose, c'est de revenir autour de la table des négociations. Moi, j'ai essayé de parcourir un peu les différentes revendications, mais ce sont des revendications qui peuvent être réglées par le gouvernement. 9000 enseignants, plus de 9000 enseignants, ils demandent quoi? Grosso modo, 5 milliards. On va me dire, oui, 5 milliards, c'est pas facile à trouver. Moi, je pense qu'on peut trouver 5 milliards dans ce pays, même ne serait-ce qu'à la moitié, 2 milliards 500 millions, pour essayer de régler ce qu'ils demandent. La revalorisation de leur salaire, les indemnités de créer, ainsi de suite. C'est faisable. Il y a deux secteurs que souvent le gouvernement néglige. Deux secteurs sociaux, la santé et l'éducation. On a vu que la santé avait provoqué une situation terrible. En faisant une grève de quelques jours, il a fallu que le président de l'Assemblée nationale se mette à genoux pour demander pardon à ses enseignants, à ses médecins, à ses personnels soignants, santé, oui. Pour qu'ils puissent revenir à la raison. Mais on aurait pu faire la même chose également pour les enseignants. Parce que ces deux secteurs, si ça ne fonctionne pas, c'est toute une nation qui tombe en ruine. Vous n'êtes pas soigné, vous n'êtes pas éduqué. Moi, je dis, je suis journaliste, mais le métier de journaliste, le corps de journaliste n'est pas prioritaire en tant que tel face à ceux qui donnent le savoir, à ceux qui soignent. Même tout le monde, j'ai écouté certaines personnes parler de ce que les enseignants n'avaient pas le droit de leurs revendications. Je dis non, il y a bien des statuts particuliers pour la police, pour l'armée, pour les magistrats, pour, j'allais dire, presque toute la République. Mais pourquoi pas pour ces deux secteurs qui sont importants, santé et éducation. Voilà un peu le premier commentaire que je fais. Je pense qu'on reviendra un peu
sur les différents points, comme vous l'avez dit. Mais en attendant, nous allons, comme je disais à l'entame de cette émission, hein, nous avons invité le ministre de l'Éducation qui ne s'est pas rendu disponible, qui a aussi envoyé deux ou trois de ses collègues, malheureusement. Aucun d'entre eux n'est présent avec nous sur le plateau. Nous allons écouter l'extrait de Aboubakar Moukadas Nour, ministre de l'Éducation nationale, sur nos ondes de la fois dernière, qui parlait de cette situation des revendications des enseignants du fondamental 1 et 2.
Dès l'annonce de ces activités qui concourent à l'interruption des activités scolaires, la position des parents d'élèves était déjà affichée. Des parents d'élèves, eux, ils n'optent pas pour la pérennisation de la grève. Cette cessation des activités pédagogiques, si on ne prend garde, risque de nous conduire à une impasse et éventuellement vers l'année blanche. Est-ce que c'est ce que les gens veulent? Sinon, comment comprendre que, après la plénière tant attendue qui a eu lieu, et au cours de laquelle toutes les centrales syndicales se sont prononcées pour la reprise des activités dans la mesure où ils ne se reconnaissent pas dans cette cessation-là. Donc ça me donne l'occasion de rassurer les parents d'élèves que le ministère de l'Éducation reste dans sa position, que la négociation n'est pas rompue et appelle les parents d'élèves à laisser librement leurs enfants aller à l'école dans la mesure où il y a des dispositions sécuritaires, un plan de sécurisation de l'espace scolaire qui est déjà mis en action.
Voilà, vous reprenez la parole en écoutant l'extrait du ministre qui, l'une de ses déclarations hein, dans cette discussion ou bien dans cette négociation en cours.
Avec tout le respect que j'ai pour les ministres de la République, cette sortie du ministre Kadas n'est malheureusement pas une bonne sortie. Il aurait peut-être fallu mieux qu'il se taise, qu'il ne dise rien, parce que ce qu'il a lu, moi j'ai bien dit, ce qu'il a lu ne va pas dans le sens de l'apaisement. Prendre à témoin les parents d'élèves, prendre à témoin d'autres centrales syndicales, c'est pas là la véritable raison, la véritable question. La question, ce sont les revendications porté par ces enseignants. Il fallait régler ce problème. Ils ont demandé certaines choses depuis plusieurs mois. Je sais qu'ils avaient fait une première grève, je crois, en début février, de 3 jours. Et ensuite, ils ont fait une grève de 8 jours. Maintenant, ils entament une grève de 21 jours. en respectant bien sûr la loi dans ce sens-là. Le ministre aurait pu plutôt les appeler et chercher à voir dans quelle mesure essayer de résorber ne serait-ce qu'une partie de ces revendications. Les indemnités de craie, je crois, c'est comme ça qu'ils appellent, de 5 000 francs. Est-ce que c'est 5 000 francs qui manquent pour donner à 9 000 enseignants dans ce pays? Même ne serait-ce que ça, je pense que les enseignants auraient peut-être été plus, auraient écouté cette proposition du gouvernement en disant, bon, on peut pas tout faire dès maintenant puisque nous avons des difficultés de trésorerie, nous avons des difficultés au niveau économique, nous vous donnons 5 000 francs pour l'indemnité de craie. Je pense que ça aurait soulagé ces enseignants. Mais le discours qui a été prononcé par le ministre Moukadas, moi je suis désolé de le dire, c'est pas un discours responsable. Et si on doit faire même une évaluation de ce département qu'il dirige depuis bientôt 6 ans, qu'est-ce qu'il y a de concret que ce ministre a fait? Voilà la question.
Monsieur Kerguelé, de toutes vos revendications, on a l'impression que vous êtes en train de demander, grosso modo, votre statut particulier. C'est ça?
Au départ, c'était ça. Mais lors de la grève de 3 jours, quand le gouvernement nous a appelés, ils ont dit, si le gouvernement nous donne le statut particulier pour les enseignants du fondamental 1 et 2, ça sera la pluralité des statuts particuliers dans d'autres secteurs aussi.
Raison pour laquelle. Qu'en est-il pour la police?
Ils nous ont parlé du statut général de la fonction publique. Et dans le statut général de la fonction publique, les policiers ne sont pas inclus dedans.
Les magistrats.
Les magistrats ne sont pas inclus dedans. Et donc, nous qui sommes inclus dans le statut général de la fonction publique, il fallait demander maintenant les avantages liés à notre carrière. Raison pour laquelle un nombre des avantages sont été énumérés dans ce mémorandum que nous avons déposé sur la table du gouvernement. Et donc, dans ces avantages, nous avons cité, par exemple, l'indemnité de dépaysement pour nos camarades qui sont en province, l'indemnité de logement, l'indemnité de risque pour nos camarades du lycée technique. Nous avons aussi demandé aussi la revalorisation des primes de craie qui date aujourd'hui de 42 ans, qui est seulement de 5 000. Certes, ce que nous avons demandé, même si c'est à la hausse, nous connaissons bien la tension de la trésorerie du pays, mais que le gouvernement nous montre sa bonne volonté. C'est pourquoi j'avais parlé de la méthodologie de la négociation, que le gouvernement nous propose ce qu'il veut nous donner et on signe un protocole d'accord, soit en court ou à long terme. Et chacun regagne son secteur. Mais le vrai problème qui se pose, on nous dit, on vient à la négociation. Mais il n'y a pas un chronogramme. La négociation doit démarrer quand et ça doit finir quand. Il n'y a pas ça.
Vous avez été reçu par le ministre, non? Le ministre de l'Éducation nationale?
Certes.
Plusieurs fois.
Plusieurs fois. Mais celui-ci nous a dit qu'il n'est pas le décideur de la finance de l'État. Vous voyez? Et c'est quand, lorsque nous voulons amorcer maintenant la grève de 21 jours, qu'il va nous faire montrer un communiqué conjoint. Si on pouvait
signer. Un communiqué seulement.
Conjoint. Si on pouvait signer entre le département et nous, en lui laissant le temps de porter l'affaire devant le gouvernement pour négocier. Alors, vous conviendrez avec nous, avant la rentrée, la centrale syndicale GSTC, la centrale syndicale STD et la plateforme des enseignants se sont réunis et ils ont déposé un préavis de grève. Comme je l'ai dit, le préviste de l'Assemblée nationale, M. Évariste Ngamana, a lancé l'ouverture de la négociation. C'est ce que le gouvernement aurait dû pérenniser et qu'il y a un compromis. Ce dossier a été classé. Vous savez, lorsque quelqu'un a soif, au moment où il voulait boire de l'eau, vous l'avez interdit de prendre l'eau. Vous ne savez pas qu'il va contrôler pour chercher un moyen pour boire l'eau. Raison pour laquelle la plateforme des enseignants là, est née pour porter haut maintenant cette revendication. Aujourd'hui, nous sommes à ce niveau-là. Alors, lorsque le problème est posé, le gouvernement a dit oui, nous avons raison. Et cette revendication est légale. Le problème qui se pose maintenant, c'est la volonté de négociation. Il n'y a pas la volonté de négociation. Pourquoi je le dis? Vous imaginez de la grève de 3 jours à la grève de 21 jours. Mais s'il y avait la volonté du gouvernement, on avait repris le travail. Lorsque les gens nous disent qu'on ne respecte pas les textes, mais qui ne respecte pas les textes? Lorsque la négociation est ouverte, mais nous, on doit reprendre le travail pour donner la chance à la négociation. C'est ce que nous avons fait. Lorsque le premier vice-président de l'Assemblée nationale nous a appelés et il y avait l'ouverture de cette négociation, on a repris le travail. 4 mois plus tard, il n'y a rien comme suite à cette négociation.
Monsieur Bernabé, sur ce point, vous avez évoqué les difficultés en tant qu'enseignant, vous en tant que tel.
Tout à l'heure, le grand frère Mendota avait parlé de notre indemnité de craie. Nous avons certes une indemnité de craie qui s'élève seulement à 5 000 francs. Avec 5 000 francs, vraiment, ça ne vaut absolument rien. Et si nous avons revendiqué à ce qu'on, au moins on revalorise ne fût-ce que l'indemnité de craie, même on pouvait nous ajouter ne fût-ce que 5 000 là-dessus. Je vous dis par exemple, moi, dès que j'ai fini l'ENS, on m'a envoyé à Birao. Et vous savez que je suis père de famille, je suis père de 5 enfants, 4 qui sont déjà scolarisés. Je n'ai pas refusé d'aller servir à Birao, moi j'ai accepté, je suis allé remplir toutes les conditions
par rapport à notre redéploiement à Birao. N'eût été le retard au niveau de la MINUSCA que je serais déjà à Birao. Mais je vais aller à Birao avec le maigre salaire d'instituteur que je continue de percevoir. J'ai demandé un prêt scolaire au niveau de ma banque. La banque m'avait octroyé et elle est en train de chercher à déduire. Et à la fin du mois, je ne sors qu'avec 65 000 francs. Et imaginez-vous 65 000 francs, je laisse une famille ici à Bangui et je me rends à Birao. J'ai des parents à Birao. Comment est-ce que je vais dormir là-bas? Comment est-ce que je vais manger? Comment est-ce que je vais faire pour bien travailler? Et avec tout ça là, je n'ai pas refusé, j'ai accepté d'y aller, d'aller travailler. Et c'est par rapport à tout ça là que nous, enseignants, nous nous sommes réunis pour demander à ce qu'on revalorise au moins notre salaire. Et si le central syndical avait décidé à ce que si le gouvernement accepte, on peut signer des papiers en attendant, puisque déjà le budget de l'année 2023 a été voté, on n'a pas pris en compte cette augmentation de salaire-là. Nous allons repartir sur le terrain pour travailler, même au début de l'année 2024. Lorsqu'on commence à prendre en compte ces revendications-là, nous allons continuer le travail. Mais on ramasse nos leaders, on va les jeter à la SRI, on les maltraite, tout ça. Vraiment, c'est...
Et donc, pour vous, en vous écoutant, il y a un manque de volonté quelque part.
Oui, il y a franchement un manque de volonté du côté de nos autorités. C'est pas aujourd'hui que nous, anciens, nous plaignons pour la revalorisation de notre salaire, de nos conditions de travail. C'est depuis les régimes qui se succèdent à la tête de ce pays. Nous nous plaignons, même. C'est comme si les gens font sourde oreille et puis ils ne nous entendent pas. Alors que, comme vous venez de le souligner tout à l'heure, les deux ministères du développement, c'est l'éducation et la santé. Si on ne forme pas bien les médecins, si un médecin n'est pas instruit, est-ce qu'il peut aller soigner les gens? Si on est malade, est-ce qu'on aura le courage d'aller enseigner? Ce sont ces deux ministères-là qui sont lésés. Et à chaque fois, lorsqu'on manifeste pour nos revendications, on nous jette en prison, on nous traite toujours des gens qui ne valent rien.
Oui, M. Kerguelé, où se situe actuellement le blocage de discussion entre vous et le gouvernement?
Le vrai blocage se situe au niveau de la fonction publique, parce que c'est lui qui est le président, le ministre de la fonction publique est le président du cadre de concertation et de négociation, c'est-à-dire CPCN. Et c'est ce cadre-là qui est régi par la loi de diriger la négociation. Une session a été mise en place, et lors de cette session, il y a des simulations qui sont déjà faites, alors il fallait amener maintenant le résultat à la plénière du CPCN pour essayer de voir concrètement ce que le gouvernement donne par rapport au point de revendication des enseignants. Jusqu'à aujourd'hui, cette plénière n'a pas eu lieu. On ne sait pas pour quelle raison cette plénière n'a pas eu lieu.
Mais vous avez rencontré aussi le ministre de la fonction publique, non?
Mais bien sûr, c'est pourquoi je dis...
Monsieur Marcel Dimassi.
Il a dit que le dossier est déjà sur la table du gouvernement au conseil des ministres. Qu'est-ce que le gouvernement nous a donné? Parce que c'est un problème posé. Est-ce que ce sont tous les points qui sont pris en compte? Le point, c'est de nous dire avec exactitude qu'est-ce que le gouvernement nous donne par rapport à nos points de revendication, que ça soit dans un bref délai, et nous on reprend le travail. Est-ce que aujourd'hui la situation perdurait sur le terrain? Mais ça ne manque pas de notre volonté. Eux, ils n'ont pas la volonté de négocier avec nous. Voilà, maintenant ils vont utiliser notre moyen pour monter les gens de toutes pièces, aller lapider les établissements privés. Et maintenant, on nous porte le chapeau, on nous fout à la prison, on dit que nous sommes manipulés par l'opposition, on veut déstabiliser le régime. Avec la CRE, on peut déstabiliser le régime. Alors, le vrai problème est là. On pose le problème, on résout le problème et chacun regagne son secteur de travail. Mais lorsque le problème est posé, on contourne le problème, on accuse l'autre de l'autre côté et pourtant, soyons clairs, c'est notre pays à nous. Et quand ce pays qui est à nous, tout le monde doit contribuer pour l'épanouissement de ce pays-là. Mais nous constatons qu'il y a un problème au niveau du gouvernement.
Monsieur Ndota, sur ce point, le gouvernement n'avance pas, en écoutant les deux ici, le gouvernement n'avance pas dans les discussions et eux aussi, ils campent sur leur position. C'est un peu difficile.
Malheureusement, dans cette situation actuelle, le gouvernement n'entend pas aller dans le sens voulu par le syndicat, parce que ils le disent clairement, ils veulent déjà que l'on revienne autour de la table des négociations. Moi, je reviendrai sur des questions, j'allais dire, beaucoup plus globales. Nous savons tous que, on le répète, l'éducation et la santé sont des secteurs sociaux prioritaires. Et je me rappelle qu'en début d'année, la Banque mondiale a décidé d'apporter un appui budgétaire exceptionnel, malgré que les aides budgétaires sont suspendues par certains bailleurs de fonds, certains pays, coopérations bilatérales. Mais la Banque mondiale a décidé de débloquer quand même 27 milliards pour ces deux secteurs, éducation et santé. Est-ce que le gouvernement, à travers ces différentes discussions, ne pouvait pas entrer dans cette manne, entre guillemets, qui est gérée bien entendu par la Banque mondiale, pour essayer de satisfaire ces différents secteurs, surtout l'éducation? C'est la question que je me pose. Parce que quelque part, je me dis aussi, je ne suis pas dans le gouvernement, je ne suis pas ministre, mais en tant qu'observateur, on a l'impression que le gouvernement perd la main sur la gestion de ce genre de situation. On sait que la grève, ça dure depuis quelques mois déjà. Il n'y a pas seulement le secteur de l'éducation, il y a eu le secteur de la santé. Bien avant, je pense, l'année dernière ou l'année d'avant, il y avait les policiers qui s'étaient également mis en grève. Donc, c'est récurrent qu'il y a ce genre de crise au niveau social. Mais qu'est-ce qui empêche donc le gouvernement d'œuvrer? Parce que nous savons qu'au niveau éducation, il y a beaucoup d'argent, notamment la Banque mondiale, l'Union européenne, qui donne de l'argent pour que ce secteur éducatif puisse quand même sortir de l'ornière. Nous savons, il y a les infrastructures qui manquent. Il faut absolument la coopération internationale pour essayer de résorber toutes ces difficultés. Mais maintenant qu'il y a le caractère social, c'est la question que je me pose. Pourquoi le gouvernement ne s'entend pas avec les syndicats et avec ses partenaires comme la Banque mondiale pour essayer de trouver une solution à travers cette enveloppe de 27 milliards qui a été donnée? Ma préoccupation.
Mais de toutes les discussions, quand vous voyez de l'autre côté, ça bouge pas, ça n'évolue pas, mais il y a des déclarations qui ont été faites et qui ont provoqué aujourd'hui cette rupture de négociation.
Tout à fait. C'est ce qu'on déplore toujours. C'est ce qu'on appelle des déclarations à l'emporte-pièce. Un ministre se lève, ne maîtrise pas le dossier, va à la radio et utilise des mots qui contrarient ceux qui sont dans leur légitimité en termes de revendication. Et ce n'est pas seulement aujourd'hui que ça se passe. À plusieurs reprises, nous avons eu des membres du gouvernement qui n'ont jamais été recadrés, sinon recadrés par d'autres personnes extérieures à ce gouvernement pour dire qu'on avait eu à l'époque cette histoire de tension de trésorerie qui a failli, même pas failli, on a été ridiculisé quelque part par l'intervention d'un membre du gouvernement. Et dans le cas concret, en écoutant les différents communiqués, en déclarations sur les ondes, au lieu d'être, j'allais dire, humble envers ces enseignants qui sont... Parce que ces enseignants, ils ne sortent pas de Mars. Ils sont avec nous. Ils sont, j'allais dire, des frères, des petits frères, des amis à des membres du gouvernement. Donc, rester au gouvernement et dire, par exemple, que ce sont des gens qui n'ont pas de diplôme, ça, ce sont des termes que l'on ne devrait pas utiliser lorsqu'on veut atténuer la crise, quand on veut atténuer la tension. Et c'est différent.
Et sans autant vous couper, hein. L'extrait du discours de monsieur Serge Gessner Diori, porte-parole du gouvernement sur cette question.
Une équipe a été mise en place, composée des experts du ministère des Finances et du Budget et de celui de la fonction publique pour analyser et faire des simulations pour répondre aux points soulevés par nos compatriotes. De ce fait, toute procédure de grève doit être suspendue conformément au texte de loi en vigueur. Certaines centrales syndicales, notamment la Fédération SDT, à sa tête M. Innocent Kérégué, la Fédération SINAEC, à sa tête M. Guillaume Lebrun-Cessé Brassy, et la Fédération de l'enseignement technique, à sa tête M. Georges Quevin-Huicon, continuent de violer la loi, empêchent les autres d'aller au travail. Et ce jour, 7 mars 2023, ils ont recruté des individus mal intentionnés qui ont fait irruption dans certains établissements de la place, lapidant les élèves, ce qui porte atteinte à l'intégrité physique et au bon fonctionnement de notre pays. Fort de ce qui précède, le gouvernement rend responsable les membres de ses centrales syndicales ainsi que certains adhérents qui les soutiennent. Le gouvernement tient à rappeler toutes les centrales syndicales que l'exercice de leur métier doit être dorénavant respectueux des textes de loi en vigueur et les auteurs, co-auteurs et complices des actes ignobles d'aujourd'hui seront traduits devant la justice de notre pays.
Voilà, et c'est après cette déclaration du porte-parole du gouvernement que vous avez été interpellé, monsieur Kérégué. Si ça vous va,
oui.
Vous
êtes en train de... Je voulais déjà ajouter, commenter cette déclaration que nous avons tous écoutée à la radio. C'est pas comme ça qu'on résout une crise. On a parlé tout à l'heure de ces différentes phases de négociation. Il y a des termes que l'on n'utilise pas. Et surtout, lorsque j'ai appris qu'il y avait des établissements qui avaient été lapidés, qui avaient des blessures, je me dis, c'est simple, il suffit seulement d'identifier ces personnes, de les montrer, ces enfants qui ont été blessés par des cailloux, et de porter plainte. Malheureusement, il n'y a aucun cas concret d'enfant qui a été lapidé, blessé. Moi, j'ai vu passer une photo, ce qu'on appelle une fake, une fausse photo sur Facebook, pour essayer de montrer que c'était des jets de pierre qui ont abouti, qui sont tombés sur la tête de ces enfants. Rien que ça, on aurait pu identifier ne serait-ce qu'un seul enfant pour prendre ça comme exemple. Malheureusement, on ne s'est pas mis d'accord sur ce qu'il fallait être fait et on a accusé les enseignants. Ça ne veut pas dire que je prends fait et cause pour les enseignants. Parce que moi aussi, j'ai des petits-enfants qui sont dans des établissements scolaires et qui auraient pu, effectivement, s'il y avait eu le caillassage, auraient pu être blessés et j'aurais peut-être porté plainte contre ces enseignants. Donc, c'est cet aspect-là que je déplore du côté du gouvernement. On voit bien que c'est une déclaration qui a été lue, préparée dans l'antichambre de je ne sais pas qui, pour essayer de décrédibiliser une action qui est tout à fait légitime. Parce que le constat est là, mais ce qui est réglé dehors, il a cité des noms de personnalités qui ont œuvré pour le faire ressortir. Ça veut dire qu'il y a une mésentente, ne serait-ce qu'au niveau de l'exécutif, pour essayer de gérer cette crise.
Monsieur Kerguelé, toutes ces procédures, vous avez écouté le porte-parole du gouvernement, M. Serge Ghislain-Djoury. Vous, lorsque vous entamez des négociations avec le gouvernement, en principe, selon lui, toutes les manifestations devaient être suspendues.
Oui, ça c'est le principe. C'est le texte qu'on dit. Mais je l'ai déjà dit ici et je réitère encore. Lorsque nous avons déposé un préavis de grève, il y a l'ouverture de la négociation à l'Assemblée nationale. Quelle était la suite? Je crois que le ministère de la Fonction publique a classé tout ce dossier. Et aujourd'hui, lorsqu'on avait déposé notre mémorandum sur la table, on a dit les revendications sont légales. Mais on va la négocier. Quel est le chronogramme? La négociation doit démarrer quand et ça doit finir quand? Quelle est la durée? Voilà, c'est un problème. Et donc, c'est une manière de nous dire, vous reprenez le travail et la négociation continue. On classe le dossier. Nous l'avons fait après la grève de 3 jours. Dans 2 semaines, nous avons travaillé régulièrement dans nos secteurs. Il n'y a aucune manifestation. Mais il n'y a pas eu de négociation. Vous allez constater que pendant la négociation, on va nous traiter, la directrice de la fonction publique va nous traiter que les enseignants n'ont pas de diplôme. À la sortie du ministre de la fonction publique, il va dire que nous sommes des sauvages. Alors, il n'y a pas de respect à notre égard. Et donc, du coup, vous constatez que c'est un mépris, c'est des écarts de langage qui créent encore une autre tension encore. Alors, au lieu de prononcer des mots d'apaisement, mais que des propos injurieux, on va vous radier, on va vous suspendre de ça. D'ailleurs, avant même cette manifestation de grève et autres là, mais les enseignants sont même en poste, ils ont vu leur salaire suspendu. Des chefs d'établissement qui ont vu même leurs indemnités suspendues, malgré qu'ils sont en poste, en train même de travailler. Vous voyez, nous sommes dans un état de droit. J'ai dit que la République centrafricaine, c'est notre pays à nous. Mais pourquoi c'est au ministère de l'Éducation nationale qu'il y a toute cette manigance-là? Aujourd'hui, l'histoire de notre arrestation, des jets de pierres et autres, là, je l'ai déjà dit, c'est un véritable montage pour nous porter chapeau et nous foutre à la prison. C'est ce qui a été organisé. Raison pour laquelle, vous-même, vous avez constaté, si vous avez lu sur les réseaux sociaux, ces jeunes qui ont été appréhendés, pourquoi on veut maintenant déposer une plainte? On a chassé nos représentants qui doivent déposer la plainte et ces jeunes ont été libérés. Ça, c'est au bénéfice de qui? Et qui est en train de tirer la ficelle?
Oui, monsieur Barnabé Ngumba, sur cette affaire, sur la déclaration d'abord du ministre porte-parole du gouvernement.
J'ai suivi la déclaration du ministre porte-parole du gouvernement. Je ne comprends pas. Dans notre pays, là, les réalités que nous traversons actuellement, que nous vivons, le coût de vie que nous vivons actuellement, est-ce qu'on a vraiment besoin d'attendre à ce que les enseignants observent la grève pour chercher à leur trouver une solution? Déjà, le coût de vie est très, très élevé. Nos autorités devaient prendre en compte tout ça pour nous mettre dans les conditions de travail. Un enseignant, pour aller travailler, il a besoin de manger, il a besoin de s'habiller convenablement. Parce que nous, quand on était encore petits, on voulait prendre comme modèle notre enseignant. Mais maintenant, nous, enseignants, est-ce que nos élèves actuellement vont nous prendre comme leur modèle? Tout simplement parce que nous sommes sales, nous sommes crasseux, nous ne sommes pas présentables, nous ne sommes pas visibles. Parce que nous percevons un salaire qui ne vaut pratiquement rien. Ça ne vaut pratiquement rien. En plus, on ne doit pas attendre à ce que les enseignants se réunissent pour manifester, qu'on doit leur trouver une solution. Et lorsqu'on manifeste, lorsqu'on réclame nos droits légaux, on nous met en prison. Vraiment, ça c'est quand même trop. C'est quand même trop.
Mais M. Kerguelé, où en sommes-nous actuellement avec toutes ces négociations? Est-ce que vous ne pouvez pas suspendre et reprendre les cours et entamer les négociations avec le gouvernement?
Armando, c'est notre pays. Et nous ne pouvons pas faire le bras de fer avec les autorités de notre pays. Mais c'est des droits, c'est des revendications qui vont dans l'amélioration des conditions de notre travail. Et vous savez, lorsque nous réclamons ces points de revendication-là, mais si c'est accepté, si c'est apprécié, on dit que c'est légal, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est ça le problème. Prenons par exemple, si c'est le groupe armé qu'on veut négocier avec eux. C'est de cette manière qu'on doit négocier avec eux. Voilà. Mais c'est parce que nous qui sommes des enseignants, tout chez nous, c'est à nous négliger, c'est de nous manipuler. Et aujourd'hui, c'est de cette manière que nous sommes en train d'être roulés dans la farine, nous foutre dans les prisons et nous traiter de tout. Ouais.
Vous n'êtes pas prêt pour reprendre les cours parce que tout ce qu'on discute ici, tout ce qu'on dit, c'est pour les enfants, c'est pour les élèves, c'est pour l'avenir de la République.
Je le dis que c'est notre pays. Nous sommes disponibles et prêts pour reprendre le travail en condition qu'il y a une très bonne méthodologie de la négociation et que les choses soient claires, on reprend le travail.
Là où donc pour l'instant, vous maintenez les 21 jours
Mais l'Assemblée générale qui a décidé, ce n'est pas moi seul. Donc, si c'est pour prendre la décision, ce n'est pas autour de cette mission-là que j'aurais dû me prononcer là-dessus.
Je vous demande, est-ce qu'à l'heure où je vous parle, est-ce que la grève est maintenue ou est suspendue, puisque vous êtes libre?
Mais c'est de la prison que je suis à le studio. Je n'ai pas encore mis pied à la maison. Et de la prison à le studio, je ne peux pas faire ce genre de déclaration, sinon pas, soi-disant, j'ai subi des pressions pour venir faire la déclaration. Et donc, tout ce que j'ai subi pendant ces périodes-là, on nous a mis dans des véhicules comme si nous étions des chefs rebelles, escortés même avec des Russes, des policiers autres. Nous, on se pose la question. D'abord, on n'a même pas eu une convocation. Personne ne nous a remis une convocation. C'était un communiqué radio que nous avons suivi, que tout le monde a suivi, et raison pour laquelle on a accepté d'y aller. En principe, est-ce que c'est de se passer? Moi, je ne suis pas juriste, mais je me pose la question. C'est la bonne procédure. On convoque une personnalité telle que nous, seulement sur les ondes, en nous demandant de se rendre. Ouais. Et donc, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui est orchestré, bien avant même de se rendre même au commissariat, pour répondre à la convocation. Bah, on n'a même pas eu. Pour répondre au communiqué. Mais le soir même, on a eu l'information de ce qui devait nous arriver. Et le jour quand on s'est rendu, et exactement c'est l'information qu'on a eue, c'est ce qui était passé. Donc vous voyez, c'est déjà une justice bien avant ça. Et pourquoi ça? Et pourtant les problèmes sont là. S'il vous plaît, c'est notre pays. Nous ce qu'on veut, c'est vraiment de faire un dialogue franc et d'abandonner tout ça.
Je rappelle, j'explique à nouveau à nos auditeurs qui viennent de nous rejoindre dans ce débat politique, nous avons tenté plusieurs fois d'avoir un responsable ou un représentant du ministère de l'éducation nationale ou du gouvernement pour cette question. Malheureusement, c'est un peu difficile. Monsieur Christian Emendota, en écoutant Monsieur Kirigui, le coordinateur de la plateforme des associations, des organisations syndicales des enseignants fondamentales 1 et 2, c'est un peu difficile pour l'instant, hein, parce que quand vous écoutez les propos, les termes, etc., les gens campent sur leur position et c'est un peu difficile d'avoir une solution très rapide à cette crise sociale.
C'est pas difficile en tant que tel, c'est pas impossible. Je pense que il faut tout simplement, je le répète et je le redis, il faut se retrouver autour de la table de négociation. Il y a une situation qui s'est posée, il y a eu, j'allais dire, des incompréhensions, il y a eu des termes de mépris, des écarts de langage, certes, mais le dénominateur commun, c'est notre pays, la République centrafricaine. Et j'ai lu certaines centrales syndicales signer un document où ils faisaient des propositions à l'endroit du gouvernement et à l'endroit des enseignants pour qu'il y ait cette reprise de négociations. Il faut reprendre les négociations. En ce samedi, je pense que dès lundi, ce week-end doit permettre aux différents protagonistes, entre guillemets, gouvernement et plateforme des enseignants, de se retrouver rapidement pour que le lundi, les choses puissent démarrer et avec des propositions concrètes. Je pense que le gouvernement peut faire un pas dans le sens de satisfaire certaines revendications de ces enseignants. Je m'attarde toujours sur ces indemnités de craie. Quand c'est marqué 5 000, mais à une certaine époque, c'était, je pense, c'était revalorisé à pratiquement 50 000. Pourquoi pas trouver une solution à ce niveau déjà
et pour leur atténuer faire une proposition,
pour atténuer la situation. Il faut déjà, en termes de négociation, il faut donner quelque chose. Je pense que les enseignants ont fait preuve de bonne foi. Une première fois 3 jours, une deuxième fois 8 jours, ils ont entendu en vain. Et ce que M. Kerguelé a dit, ils ne demandent pas la lune. Ils disent, nous voulons un chronogramme. Un chronogramme, ça veut dire à partir de mars, avril, mai, voilà. Qu'est-ce que vous nous proposez? Moi, du gouvernement, j'ai dit, OK, les indemnités de craie, à partir de avril, vous aurez les indemnités de craie, pas de 5 000, mais de 15 000 ou 25 000. C'est sur ça qu'on doit commencer à discuter. Et ensuite, poursuivre ce chronogramme jusqu'à la fin de l'année scolaire, puisque le temps passe extrêmement vite.
Mais quand nous je disais tout à l'heure qu'en écoutant les deux camps, c'est un peu difficile parce que vous voyez, toutes ces propositions,
tout
de l'autre côté, les gens ne sont pas prêts.
Non, en fait, c'est une question de responsabilité. C'est une question de responsabilité.
S'il vous plaît, monsieur.
Vous finissez d'abord, oui.
C'est une question de responsabilité. Quand un gouvernement est responsable, il analyse la situation et il prend des mesures. Mais c'est pas des mesures en embrigadant, en embarquant des gens dans des véhicules comme des braqueurs ou des rebelles, j'utilise les termes de monsieur Kérégélé, que l'on va résoudre la situation. Il faut le résoudre en toute responsabilité, mais avec beaucoup de sérénité. Et c'est ce qui manque malheureusement au gouvernement actuellement.
Oui, quelques secondes, monsieur Kérégélé.
Oui, ce que moi je voudrais dire, c'est que nous sommes disponibles et disposés même pour trouver un palliatif. Ça nous gagne quoi et quel avantage pour nous de perdurer dans cette situation? Vous savez, nous, ce qu'on veut, on sait que c'est difficile. Mais on se met, on parle. C'est ça le vrai problème. On vous dit, venez, il n'y a pas cette volonté de négocier de la part du gouvernement. Oui, c'était ça le vrai problème. Et après, on nous taxe que vous êtes des rebelles. Non, vous êtes financés par les opposants.
Mais qui vous a dit cela? Est-ce que c'est ce que vous écoutez partout, mais pas un ministre qui peut vous le dire?
Non, mais c'est dit par nos autorités. C'est dit par nous tous. Je vous le dis, pourquoi monter maintenant ces enfants-là, d'aller lapider les enseignants, les cadres du pays, qui sont dans leur endroit reconnu par la loi? Ils sont en train de réunir sans inquiéter personne. On va les prendre maintenant dans les bus, venir encore les lapider. Et demain, on va dire que voilà, ce sont ces enseignants-là qui sont en train de lapider. Vous voyez ça? Et on amène ces gens à la justice. La justice va les libérer. Nous le disons. C'est notre pays à nous. Lorsque il y a un cadre pour résoudre tout ce qui est dialogue social, autant mieux traitons le problème sérieusement et trouver un palliatif au problème. Chacun se sent à l'aise.
On va écouter maintenant, prendrons les réactions des Centrafricains qui nous écrivent. Je pense que nous avons tout pris en compte. Toutes vos questions, tout ce que vous nous avez envoyé par écrit, nous avons pris en compte. C'est pourquoi nous avons posé toutes ces questions. Malheureusement, aucun représentant du gouvernement ni du ministère de la Communication n'est avec nous. Vous allez maintenant suivre ou bien écouter les réactions orales de nos auditeurs.
Bonjour Armando, c'est Hervé Basso, Marocain depuis Bébégati. La grève des enseignants, au fait, pour le moment, ça paralyse effectivement l'éducation, le système éducatif de la République centrafricaine. Mais il y a un problème. Le problème se pose au niveau des gouvernements. Ces gouvernements-là ne prennent pas au sérieux cette grève, car au lieu de menacer, de continuer seulement à menacer les enseignants, il est question maintenant de chercher à trouver un palliatif. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire? Qu'est-ce que les enseignants doivent faire? Il faut chercher à trouver un terrain d'attente. Si ils arrivent à trouver un terrain d'attente, c'est là où l'éducation, c'est-à-dire les études, l'école va reprendre son chemin et les enfants vont aussi gagner leur vie, car l'école, c'est l'avenir de demain. Mais à partir du moment où les gouvernants ne font que menacer les enseignants, menacer les leaders syndicaux, alors là, certainement, à mon avis, il n'y aura pas une solution. Il est question maintenant que les deux parties essaye de trouver un terrain d'attente pour pouvoir rehausser le niveau de l'éducation afin que les enfants puissent réussir dans leur vie de demain.
Mon avis sur la question de la grève qui est en train de se dérouler et qui fait l'objet de discorde entre l'État et le gouvernement et les syndicats des enseignants, moi je pense qu'il faut que le gouvernement fasse très attention avec ces questions de statut particulier. Les statuts particuliers que réclament certains corps de métier vont amener beaucoup de problèmes dans le pays. Que le gouvernement fasse un effort pour traiter tous les fonctionnaires sur le même pied d'égalité. S'il y a avantage à accorder, qu'on accorde à tout agent public ou agent de l'État. Plus question d'octroyer des avantages spécifiques à certains corps de métier. Là, ça, et c'est ce que nous sommes, ce qui est en train d'arriver là, c'est ce que nous avons vécu à l'époque en 1991-92 qui a conduit à des années blanches, à la cessation des activités dans tous les secteurs publics. Donc c'est très dangereux. Aussi, si j'ai un conseil à donner à nos frères enseignants, je pense que tout le monde vit la situation actuelle que traverse le pays. Le gouvernement ne cesse d'en parler. Ce n'est plus un secret de polichinelle. Les caisses de l'État sont pratiquement vides et que c'est par coup de miracle que les salaires sont payés. Si je comprends à travers tout ce que le gouvernement nous dit à la radio. Donc, s'il y a revendication à faire, autant le faire aussi de manière progressive. À l'impossible, nul n'est tenu. Quand vous présentez un paquet de revendications que le gouvernement n'a pas les moyens pour satisfaire à vos désidratats, ça va être difficile. Donc, ça ne pourra qu'engendrer des bras de fer entre vous, des bras de fer inutiles d'ailleurs même, trouver le gouvernement.
Oui, bonjour Armando. Je suis Jean de Dieu depuis Bois. Bonjour aux éditeurs de Patara. C'est que, Armando, je ne sais pas, nous sommes dans quel pays? Si c'est les rebelles, on négocie avec eux rapidement. Mais si c'est les intellectuels, on bafoue leurs droits. Mais ça, c'est quel pays? Moi, j'envoie ce message au président de la République qu'il fait très attention. Les vrais opposants, ce sont ces ministres qui ont parlé très mal, qui ont très mal répondu à ces représentants des anciens-là. Parce qu'ils sont en train vraiment de balancer le régime dans une situation chaotique.
Voilà, ce sont là les réactions de Centrafricain, M. Barnabé Ngomba Katikiro. Votre réaction aussi sur tous ces propos que vous venez d'écouter.
Nous, avant de devenir enseignants, nous sommes aussi parents d'élèves. Il y a aussi nos enfants qui fréquentent ces écoles-là, ces différentes écoles-là. C'est vrai qu'on a démarré au niveau des établissements publics, mais à un moment donné, ça va jusqu'à toucher aussi les établissements privés. Si ça touche les établissements privés, certainement, même ceux qui ont les moyens et qui ont inscrit leurs enfants dans des établissements privés vont se retrouver à la maison avec tous ces enfants. Comme a dit celui qui avait parlé tout à l'heure là, même s'il y a des revendications que les enseignants ont présentées au gouvernement, mais nous attendons de nos gouvernants la bonne volonté de commencer d'abord, et ça va nous apaiser et nous allons reprendre le chemin de l'école pour encadrer nos enfants. Nous sommes conscients que dans notre pays, il y a un problème de trésorerie. Mais on ne demande pas ce qu'on prenne en considération toutes nos revendications. Mais crainte... au moins, il faudrait qu'on démarre par ce qu'on peut déjà commencer à faire.
Mais la ça crainte, va nous apaiser la crainte du gouvernement, c'est d'éviter une année blanche. Mais avec cette manière de négocier avec les anciens ou avec vous, est-ce que cela peut vite ramener la paix et permettre un retour à la normale?
Mais dans ce cas, est-ce que la faute appartient aux enseignants? La faute n'appartient pas aux enseignants. Nous, nous sommes disposés pour les négociations. Mais quand on va pour les négociations, c'est des baratins. On ne nous dit pas la vérité. On cherche à nous apaiser. Une fois, lorsque nous sommes dans les salles des classes là, le dossier est purement et simplement classé. C'est pas aujourd'hui que les anciens ont commencé à se plaindre par rapport à ce qu'ils perçoivent comme salaire.
Oui, M. Kriguele.
Vous savez...
Sur la crainte du gouvernement, c'est d'éviter l'année blanche.
Si la crainte du gouvernement, c'était d'éviter l'année blanche, je crois qu'après la grève de 3 jours, nous avons repris le travail. En ce moment-là, on aurait dû déjà trouver un palliatif, un compromis définitif. Je l'ai dit, et un compatriote en a dit lorsque vous avez passé en revue ici ces voies-là. Mais si c'est négocié avec les rebelles, c'est de cette manière qu'on doit négocier. Aujourd'hui, les choses n'avancent pas bien, il fallait le dire. Vous constatez que vous conviendrez avec moi, il y a un véritable désordre au niveau du ministère de la fonction publique. Tout commence par là. Ce cadre-là, ce monsieur le dirige comme un dictateur et il ne facilite pas le dialogue social. Je le dis, vous savez, quand le coordonnateur de la plateforme Béako s'est approché de nous, il a fait le contour, même de là où on nous a arrêtés, il était passé nous voir avec l'excellence Ouénézoui. Même avant la manigance de tout ça, là, des jets de pierre et autres, mais l'excellence Ouénézoui était constamment avec nous et avec des propos apaisants. Même devant les camarades à la bourse du travail, il va, il parle à ses enseignants. Et c'est des messages qui apaisent. Même si aujourd'hui, il n'y a rien à nous donner, mais qu'on nous donne quand même des propos apaisants. Que de nous balancer, on va vous chasser tous, on va vous radier, vous allez voir votre salaire suspendu. Ouais, c'est des menaces comme ça. Aujourd'hui, cette grève est observée sur toute l'étendue du territoire centrafricain. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Le problème, c'est ça. Je dis, nous sommes disposés pour reprendre le travail en condition que les choses vont bien. Je vous le dis, vous savez, lorsqu'on est là, on dit on taxe les autres. Non, celui qui est en train d'organiser ce mouvement-là, c'est l'opposition qui le manipule. Non, c'est ça. Mais je le dis, si c'est avec ces propos, cette qualification, comment on peut construire ce pays?
Voilà, on va écouter M. Christian Mendota, j'allais dire, sur cette question et les réactions.
Non, je pense que le gouvernement n'a pas à craindre de quoi que ce soit. Il suffit, j'ai parlé tout à l'heure de responsabilité. Il faudrait que le gouvernement revienne autour de la table de négociation avec un meilleur langage. Et les choses vont... je pense, se régler assez rapidement. J'écoute, je réécoute M. Kiriguele, j'ai écouté M. Gomba. Il ne demande pas la lune, il demande l'essentiel. Allant à l'essentiel, que d'utiliser des termes qui rabaissent, qui énervent, qui mettent un frein. Donc, Si on veut éviter l'année blanche, c'est simple, c'est d'être responsable devant cette situation.
Et c'est la fin de ce débat politique d'aujourd'hui. Merci à toutes et à tous d'avoir été des nôtres durant ces discussions. Je rappelle très simplement que nous avions parlé de ce bras de fer en ce moment entre le gouvernement et les anciens du Fondamental 1 et 2. Merci à vous, M. Barnabé Ngumba.
Merci, Armando.
Merci à vous aussi, M. Innocent Kereguele.
Merci, Armando. Je remercie aussi tous les auditeurs qui nous suivent, particulièrement mes camarades anciens.
Oui, merci aussi à vous, M. Christian Emendota.
Merci à tout le monde. Merci aux auditeurs de Radio Ndekeluka.
Et c'est la fin de ce débat. Rendez-vous à la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Au revoir.